chapitre 12, chapitre 8, versets 1 à 12. Jean chapitre 8, versets 1 à 12. En fait, je voudrais vous parler sur la puissance du pardon de Dieu. La puissance du pardon de Dieu. Et combien nous en avons besoin. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés dans leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus la femme, plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Voilà un récit. On se rassemble dans la présence du Seigneur. Jésus fait du bien, Jésus accueille. Et puis soudain, on fait sortir quelqu'un. Et ces scribes et ces pharisiens disent, voilà, on a attrapé cette dame. Elle a commis l'adultère. Et selon la règle, les lois de Moïse, écrites dans la parole de Dieu, inspirées de Dieu, eh bien, cette femme doit être lapidée. Bon, je ne sais pas si le monsieur, je ne sais pas s'ils l'ont trouvé ou pas, mais en tout cas, voilà. Bon, c'est quand même triste de voir cet acharnement sur la gente féminine, hein, dans ce cas. L'indulgence que des fois on met sur les hommes. Mais toujours est-il que on va continuer à considérer ce récit sans épiloguer sur cette situation qui n'est pas écrite dans les détails, mais on voit qu'il n'y a que elle qui a été attrapée, alors que pourtant c'est en flagrant délit d'adultère. Alors on amène à Jésus. Et c'est clair, c'est précis. Elle doit être condamnée. Il n'y a aucune raison dans ce contexte et dans cette culture qu'elle reste en vie. Les pharisiens étaient là avec certainement des gros cailloux en main, prêts à fracasser sa tête, à jeter les cailloux sur elle. Et nous découvrons que le récit se termine différemment. Cette femme va connaître la possibilité de vivre une nouvelle existence, parce que au moment où elle doit mourir pour payer son péché et sa vie de pécheresse, eh bien, il y a eu la personne de Jésus qui passait par là et une nouvelle vie va commencer pour elle. C'est quelque chose d'extraordinaire. Le pardon de Dieu pour notre vie. Alors, j'ai peut-être rapidement, dans ce passage-là, quelques points sur cette grandeur du pardon de Dieu. La première des choses que je peux discerner dedans, c'est que le pardon de Dieu n'est pas fondé sur notre innocence, en quelque sorte. Il n'y a pas eu là un procès rapide ou même détaillé, et finalement les accusations sont infondées, et cette femme, on découvre les preuves de son innocence, et donc on la pardonne, en quelque sorte on la libère. Non, le pardon de Dieu n'est pas fondé sur l'innocence. Il y a des personnes qui cherchent à se disculper devant Dieu, à se donner des excuses, des faux fuyants, des prétextes pour se justifier. C'était pas comme cela. Elle était véritablement coupable. Et pourtant, le pardon de Dieu est là. Elle a été prise en flagrant délit, mais pourtant, le pardon du Seigneur a pu quand même agir. Et si nous avons besoin du pardon de Dieu, et je crois que nous avons tous besoin de l'intervention de Dieu, eh bien, c'est pas parce qu'on est propre, on est bien, c'est parce que justement, on est pécheur. La Bible nous dit dans Romains, ce sont des versets que nous connaissons les uns et les autres assez bien, Romains 3, verset 23, « Car tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. » Tous ont péché. J'ai quelque chose à dire à vous, à toi, mais je m'y inclus aussi. Nous sommes tous pécheurs. Alors, comme il est dit que nous sommes tous pécheurs, il est dit aussi que nous sommes tous privés de la gloire de Dieu et de pouvoir rencontrer Dieu. Nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Il faut que vous sachiez, chers amis, que vous êtes pécheurs. Vous devez le savoir, vous devez le réaliser. Et si vous réalisez que vous êtes pécheurs, parce que la Bible le déclare, eh bien sachez que vous êtes privés de la gloire de Dieu, que vous ne pouvez pas avoir le salut de votre âme. C'est clair, c'est précis. Tous ont péché. Tous nous sommes voués au tourment éternel, à l'enfer éternel. Tous, sans exception. Personne n'échappe à cette réalité de la parole de Dieu. Mais il y en a qui ne veulent pas l'admettre dans leur vie. Si nous voulons sortir de ce piège absolu de la mort à cause de cet état que nous sommes pécheurs, eh bien, le premier pas, c'est de se reconnaître pécheur. C'est de se reconnaître pécheur. Je lis dans 1 Jean chapitre 1, verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, qu'est-ce que c'est ? Nous nous séduisons nous-mêmes. Nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité, elle n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, si nous reconnaissons et que nous disons « Oui, je suis misérable. Oui, je suis sale. Oui, je suis souillé. Oui, j'ai fait du mal. Oui, je suis pécheur. » Si nous confessons nos péchés, alors c'est la porte ouverte pour le grand pardon du Seigneur, car il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le seul qui peut nous purifier de toute iniquité. Donc, j'apprends que le pardon de Dieu, la grâce de Dieu qui fait échapper à la condamnation, ce n'est pas fondé sur mon innocence, mais ça vient de la grâce de Dieu. La deuxième chose que je découvre dans ce texte, c'est que le pardon de Dieu n'est pas limité à la gravité du péché. Pour la culture de ce moment-là, l'adultère, c'est la mort. Et quand on cherche dans l'Ancien Testament, la peine capitale, donc on le découvre, il y a l'adultère, mais dans d'autres passages, on voit par exemple, si au même titre que le meurtre, le kidnapping, j'ai pris quelques notes là des choses dans la loi de Moïse où on est puni de mort. Il y a le kidnapping, la sorcellerie, le sacrifice humain, etc. Bon, mais l'adultère aussi dans ce que ces religieux disent. Et vous savez, c'est nous qui donnons une échelle de gravité. Hein, et de, c'est vrai qu'il y a des péchés qui, peut-être, font plus de dégâts immédiats ou dans notre entourage, ou, etc. Mais quoi qu'il en soit, le pardon de Dieu n'est pas lié à la gravité du péché. Personne n'a le droit de dire « Oh, mais celui-là, il fait pire que moi !» Et personne ne doit dire « J'ai trop péché et je peux plus, Dieu ne peut plus me pardonner. » Ni on a le droit de refuser, de dire « Je ne mérite plus le pardon de Dieu parce que de toute façon on ne le mérite jamais, c'est par grâce. » Ni on a le droit de dire « Oh, mais moi, c'est petit parce qu'il y en a d'autres de plus graves. Moi, je n'ai pas tué, j'ai pas fait ceci, fait pas cela. » Le pardon de Dieu n'est pas limité à la gravité du péché. Et quand bien même, comme Ésaïe pouvait dire, Dieu disait ceci aux pécheurs, « Venez, plaidons, dit l'Éternel, et si vos péchés sont comme le cramoisi, c'est-à-dire noir, 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 sale, dégoûtant, au plus dans la souillure, eh bien, si vous venez vers moi, eh bien, vos cœurs deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Le pardon de Dieu n'est pas fondé sur la gravité du péché dans l'échelon. Le pardon de Jésus, je découvre aussi, troisième chose que je découvre dans ce texte, c'est que le pardon de Jésus n'est pas donné parce que Jésus met de côté les exigences de la loi. Justement, les exigences de la loi, c'est quoi? C'est la mort. Pour un tel acte de méfait. Et comment ça se fait que Jésus peut apporter à cette femme le pardon? Bien, Jésus peut apporter le pardon dans nos vies. Il a l'autorité pour nous accorder le pardon parce qu'il a réglé le problème du péché pour nous. Parce qu'il a payé la dette pour nous. Vous vous rendez compte? Je suis pécheur. Tu es perdu, je suis perdu. Personne ne peut me secourir. Jésus vient et il dit, je te pardonne, mais quel droit te donne cette possibilité de me pardonner? Et Jésus nous répond en quelque sorte, je te pardonne parce que j'ai réglé ton problème. Ton péché, je le porte pour toi, je paye la dette pour toi. C'est ce que la Bible dit dans 1 Pierre, lui qui a porté lui-même nos péchés, en son corps sur le bois, afin que mort au péché nous vivions pour la justice. Il a porté lui-même quoi? Non pas ses péchés, mais nos péchés sur le bois de la croix. C'est là où les coupables sont condamnés à mort. D'ailleurs, à côté de lui, il y a deux brigands qui sont mis à mort. Mais Jésus a offert sa vie à la croix, pour porter non pas ses péchés, mais les miens. Et c'est pour cela que moi, toi, ce soir, c'est ce que Jésus te dit, viens pécheur, tu as besoin de pardon, tu as besoin de paix et de transformation dans ta vie, Ne va pas à quelqu'un d'autre qui n'aura pas la possibilité de te pardonner, moi seul, parce que je peux le faire avec autorité, j'ai réglé le problème pour toi. Amen. C'est comme cela que Jésus est le seul sauveur. Lui seul peut venir à notre secours et accorder le pardon. Je découvre encore un autre aspect du grand pardon de Jésus. Le pardon de Jésus, c'est la seule chose qui s'intercale entre nous et la mort. Parce qu'en fait, cette femme, elle était à quelques secondes de mourir. Elle était à la porte de la mort et de l'éternité. Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le seul moyen qui l'a barré sur cette route de la perdition? C'est la personne de Jésus. Et si tu veux échapper à la condamnation, il te faut laisser Jésus intervenir dans ta vie. Il te faut, si tu n'as pas Jésus, tu ne pourras pas échapper. On ne peut pas soudoyer ni quoi que ce soit dans ce tribunal de notre péché, en quelque sorte, soudoyer le juge en disant non, 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 non. Il n'y a aucun moyen d'échapper. Seul Jésus peut barrer la route et apporter le pardon. Connais-tu le pardon du Seigneur? Lui seul peut intervenir. Je continue encore et je découvre que le pardon du Seigneur ne provient pas du fait qu'il n'y a personne assez qualifié pour nous condamner. Peut-être que là, on libère cette femme en disant, bon, ben, on n'est pas qualifié pour te condamner, tout cela. Non, ce n'est pas ça. Il y a quelqu'un qui peut condamner cette femme-là. Quand Jésus a dit que celui qui est sans péché lui jette la première pierre, finalement, Jésus a donné la directive. Il dit celui qui pardonne, ou du moins celui qui condamne, il faut qu'il soit sans reproche. S'il y a quelqu'un qui est sans reproche au milieu de vous, eh bien, qu'il condamne cette femme. Jésus donne les règles. Il faut que la condition pour condamner quelqu'un, c'est qu'on soit soi-même sans reproche et sans péché. Alors, bien sûr, tous ont péché. Et dans ce texte, la conscience a travaillé dans les cœurs parce que Jésus a laissé le temps à la réflexion. Et les uns après les autres, les personnes les plus âgées d'abord, à cause de la longueur de leur vie certainement, hein, ben, ils se sentent repris et puis les uns après les autres, ils ont dit non. Moi, je ne suis pas dans la condition de condamner les autres. Qui pouvait condamner à ce moment-là, hein? Il n'y avait que Jésus. Que Jésus, oui. Il y avait Jésus, il pouvait condamner. Mais il ne l'a pas fait. Et c'est une belle et bonne nouvelle pour nous ce soir, pécheurs que nous sommes. Pécheurs perdus que nous sommes. Nous découvrons que Jésus, qui a la possibilité, le droit de nous condamner, eh bien, il ne veut pas nous détruire. Il ne veut pas. Je découvre le cœur du Seigneur là. Il veut te sauver. Il veut te sauver. Sans lui, tu es perdu. Mais si tu viens vers lui, eh bien, ce ne sera pas pour te condamner. Mais il veut agir. Il veut te répondre au fait que tu t'avances vers lui. En fait, le pardon de Jésus démontre le pourquoi de sa venue, démontre sa mission. Quand les uns et les autres sont partis, Jésus s'est retrouvé seul avec cette femme coupable. Et Jésus dit, bon, et cette femme, elle attend parce que tous sont partis, mais Jésus est resté. Et elle attend, elle attend. Jésus est prêt à... Et c'est possible que Jésus la tue là. Mais voilà ce que Jésus dit, je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas non plus. Ça démontre la mission de la venue de Jésus ici-bas. Ça démontre pourquoi Jésus est venu aussi dans ce lieu cet après-midi. Parce que même si nous ne le voyons pas, quand Jésus est reparti au ciel, il dit que chaque fois que maintenant, après ce court temps où il a passé dans la chair en Israël, il dit que maintenant qu'il est reparti au ciel après son œuvre à la croix, pour le salut de tous ceux qui s'approchent de lui, il repart au ciel. Et chaque fois qu'on se rassemble, il est là pour agir de la même manière. Et c'est pour cela qu'on a prié pour les malades. Parce que Jésus est là. Mais si Jésus est là, c'est aussi pour apporter le salut par le pardon auprès de chacun d'entre nous. Parce que tu es pécheur. Parce que tu es pécheur. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui nous le dit. Et j'ai autant besoin de ce pardon. Je ne te condamne pas non plus. Jésus, sa mission est venue pour sauver. Vous connaissez ce verset si connu de Jean qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit au Seigneur Jésus, soit sauvé, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et le verset suivant dit, « Car Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. » Ce n'est pas la mission de Jésus. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. La mission de Jésus, cet après-midi au milieu de nous, c'est de te sauver. Si tu viens avec un cœur repentant, reconnaissant que tu es pécheur et que tu es poursuivi par ta conscience coupable, viens à Jésus. Il est là pour accomplir sa mission, pour te sauver. Sauver pour ceux qui viennent vers lui. Et enfin, je dirais que quand Jésus pardonne, le pardon de Jésus, quand il est efficace et qu'on le reçoit comme un cadeau de sa part, comme une faveur venant de lui, le pardon de Jésus est un défi pour nous. Avec son secours, de changer de style de vie. Son pardon ne nous donne pas la permission de continuer dans notre vie de péché. Parce que quand Jésus dit « je ne te condamne pas non plus », c'est le pardon de Dieu, c'est le pardon de Jésus. Mais qu'est-ce qu'il dit encore ? Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Je trouve la force de vivre une nouvelle vie dans le pardon du Seigneur Jésus. Il m'arrache toutes les chaînes du péché, les vices, ma nature de déchu. Il l'a enlevé et je trouve dans le pardon, dans le salut de Jésus, la force, bien sûr, avec son secours au quotidien, de vivre une nouvelle vie. Le pardon du Seigneur, c'est pas pour nous donner la permission de continuer à vivre une vie déchue. C'est pas comme dans certaines formes de religiosité qui n'est pas du tout enseignée dans la parole de Dieu. Je vais aller me confesser et comme ça, ça me calme un peu la conscience. Je fais quelques prières, récitations de prières qu'on me demande, qu'on me donne. Et puis, ça me calme un petit peu. pour recommencer et puis encore pour revenir et revenir. Non, c'est pas ça ce que Jésus ambitionne pour ta vie. C'est te transformer. C'est de faire de cette femme pécheresse une sainte femme de Dieu. Une femme d'une nouvelle valeur, une femme qui sera mariée ou si elle était, elle va devenir fidèle à son mari. Une femme qui va devenir une mère aimante, une femme qui va rayonner de tout l'honneur, d'une valeur nouvelle qui est tout à l'honneur de la gloire, à l'honneur et à la gloire de Dieu. C'est ce que Jésus veut faire dans ta vie. Et il n'y a que lui qui peut le faire. Il n'y a que lui. Il veut le faire aujourd'hui pour toi. Chacun d'entre nous, nous pouvons venir vers le Seigneur. Voilà. C'est ce que j'avais envie de partager avec vous, chers amis. Jésus sauve encore aujourd'hui. Jésus sauve encore. Et j'ai besoin de son salut. Vous savez, les pharisiens qui ont amené cette femme avait vu juste, bien que vous connaissez toute la tortuosité de leur démarche. Mais en tout cas, pour leur donner le crédit, je dirais que ces pharisiens avaient vu juste sur deux points. Quand ils ont dit que le péché mène à la mort. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Quand il dit « cette femme, elle mérite la mort », parce que c'est une femme pécheresse, hein, avec ce qui lui est arrivé. Et ça, ils ont raison. Ils ont raison, parce que c'est ce que la Bible dit aussi. Ils se sont sanctionnés positivement par la déclaration de la parole de Dieu. Le péché nous mène à la perdition. Je suis perdu. Ça, c'est clair. Et une autre chose qu'on pourrait donner crédit à ces hommes-là, que quand on rencontre quelqu'un qui est pris dans le filet, dans les pièges du péché, comme cette femme qui est prise, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'amener à Jésus. Il faut l'amener à Jésus. Bien sûr, eux, ils avaient un autre objectif. Mais parce qu'ils ont amené le pécheur à la rencontre de Jésus, eh bien Jésus a exécuté son objectif pour le pécheur. Et si toi pécheur, sans dire « Oh, mais moi je suis raisonnable, je suis… » Tu es pécheur, tu es perdu. Si toi, tu voulais venir dans l'état où tu es à l'heure actuelle, pour te confier dans l'amour du Seigneur Jésus, dans la capacité unique de Jésus comme étant le Sauveur, il va te sauver. Si tu reconnais cet état de dire « je suis perdu, mon péché m'entraîne en enfer et je ne suis pas heureux, je dois cacher, vivre avec… » Vous savez, cette femme, elle vit dans l'adultère et certainement, si ça devait durer dans le rythme de sa vie, elle devait vivre avec une certaine façade. Et souvent, on cache la noirceur de nos vies intimes de pécheurs et des choses qui nous font rougir. On le cache derrière un paravent. Et on n'est pas heureux, on n'est pas en harmonie avec nous-mêmes. Et on ne peut pas vivre ici-bas heureux de cette manière-là. La vie de péché n'est pas une vie paisible et heureuse. Mais si tu reconnais et que tu viens vers le Seigneur, il va te changer. Il ne va pas te condamner à cause. Si tu restes dans ton péché, tu seras condamné. C'est automatique, c'est écrit. Mais si tu viens à Jésus, il ne va pas te condamner. Je ne te condamne pas non plus. Il va te pardonner. Et il va te donner la force de vivre une nouvelle vie. C'est ça, la transformation que le Seigneur veut faire pour toi. Et ça, c'est pour ceux qui découvrent les réunions. Ou pour ceux qui depuis longtemps sont là au milieu, mais qui n'ont jamais fait encore cette démarche de dire, mais enfin, je suis pécheur. Si Jésus devait revenir, si je devais mourir, je suis perdu à jamais. Alors règle vite la question. J'espère qu'après cette réunion, bien, Dieu va continuer à travailler ton cœur, va te laisser aucune paix. Et même si c'est dans la nuit, à 2h du matin, tu téléphones à pasteur Cyril en disant, pasteur, j'ai fait la paix avec Dieu, je veux faire la paix avec Dieu. Quand est-ce le prochain service de baptême? Ce serait formidable. Oui. Mais vous comprenez, oui, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous aide, et qu'ainsi il sauve, et que bientôt, eh bien, si le Seigneur devait revenir, tout ce que nous sommes, nous soyons au ciel ensemble. Alléluia, et nous continuerons notre réunion d'Arles, là-haut dans le ciel ensemble, avec les autres qui nous rejoignent. Amen. Courbons nos cœurs devant le Seigneur.